Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore et toujours devant toi, autour de ta parole. Seigneur, merci parce que tu as permis cela. Nous savons que tes enfants qui sont en Europe, même si jusqu'ici il n'y a que notre sœur Claudine, ils seront là aussi, comme d'habitude. C'est pour cela que nous implorons ta grâce, nous implorons ton esprit pour qu'il nous conduise et que tu sois avec notre frère modérateur pour que l'Esprit de Dieu le guide afin que lui, à son tour, nous aide, nous canalise dans ce que nous disons pour que la gloire te revienne à toi-même, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
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 Merci.
Merci pour la prière, Papa José. Donc, tu n'es pas devant ton écran pour voir les gens qui arrivent?
Non, non. Il y a beaucoup de bruit ici à côté de cette fenêtre que tu connais. Je suis un peu au retrait.
Ok.
Ah.
Parce que quand tu disais qu'il n'y a que maman Claudine, papa Samuel était là.
Ok.
Mais est-ce qu'il est devant l'écran ou pas?
Non. Tu as raison.
Ok. Ok. Bon, en tout cas, nous prenons le texte. Merci pour la prière, papa. Nous prenons le texte en Genèse, au chapitre 47. Nous allons écouter la lecture avec notre sœur Claudine du verset 13 jusqu'à la fin, donc jusqu'au verset 31.
Merci, papa. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait plus de pain dans tous les pays, car la famine était très grande. Les pays d'Égypte et les pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent les troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, et nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété des Pharaons. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Tellement il n'acheta point les terres de prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur de prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer les sols. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous as sauvé la vie. Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu de terre de l'Égypte appartenait à Pharaon. Il n'y a que la terre de prêtre qui ne soit point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent des 187 ans. Lorsque Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, tu m'enterreras dans leur sépulcre. Tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Amen.
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 Merci, ma sœur Claudine, pour la lecture. Bonsoir, papa José. Bonsoir, maman Charlotte.
Bonsoir, pasteur.
Bonsoir, papa Samuel aussi, même si tu es venu avant eux.
Oui, bonsoir, papa.
Ok, merci d'être là, frères et sœurs. Nous continuons avec ce récit émouvant de l'arrivée de la famille d'Israël en Égypte. Et l'accueil a été fait, l'installation faite, les années s'écoulent, mais ils sont arrivés pendant la crise, et la crise, la famine continue. C'est ainsi que nous voyons dans notre texte la sagesse et la rigueur que Joseph est en train d'utiliser pour gérer la provision qui avait été faite pour les années de crise, les années de famine. C'est ainsi qu'avec la sagesse, il va acheter, tout l'argent va s'épuiser, l'élevage, le cheptel aussi, et il va jusqu'à acheter les terres, et à la fin, toutes les terres vont appartenir à Pharaon. Ce qui est bien l'humilité que nous sommes en train de voir dans ce texte. Cet homme, cet étranger, il ne travaille pas pour son propre compte, il travaille pour les comptes de son chef. C'est ce qui fait que dès qu'il achète, dès qu'il fait des provisions, il dit c'est toujours les provisions pour Pharaon, c'est pas les provisions de Joseph. Quel exemple d'humilité, un coup d'état à cause de sa popularité pouvait vite arriver pour que Pharaon soit détrôné, mais c'est un homme loyal, un homme sage, vraiment intelligent jusqu'à la fin. Et à la fin de notre texte, nous voyons l'espérance d'Israël qui sait que son peuple qui s'est multiplié, qui est rendu fécond dans cette terre d'asile, quittera un jour. Lui-même, il dit qu'on ne l'ensevelit pas en Égypte. Voilà, frères et sœurs, le texte que nous allons partager ensemble, qui est un peu long, mais très riche. Trois questions peuvent nous aider vraiment à approfondir notre texte. De quoi ou de qui parlent ces versets? La deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et notre dernière question, quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Cela, nous allons avoir des vérités dans l'attitude ou les comportements de la population, dans le comportement de Joseph, dans le comportement de Jacob. Tout cela peut vraiment nous enseigner aussi aujourd'hui. Voilà, cela dit, frères et sœurs, nous pouvons maintenant aller de l'avant avec le partage. Genèse 47, du 13 jusqu'au verset 31. C'est ça le texte que nous allons méditer ensemble. Et maintenant, le partage est ouvert. Vous pouvez demander la parole et je vous l'accorderai. Merci.
Bon, je vais dire quelque chose.
Ok, allez-y.
Oui, merci beaucoup, pasteur. Frères et sœurs, je suis au verset 13 et 14. Au verset 13, on nous parle de la gravité de la famine. La famine était devenue très grave, que ce soit en Égypte, que ce soit au Canaan, et ici, Dieu est grand, puisque Jacob ne connaîtra pas cette famine à Canaan. Il sera en Égypte où son fils est l'administrateur. Aussi, au verset 13, 14, je vois, comme tu l'as dit, le modérateur, tout l'argent était déposé dans le palais de Pharaon. Tout ce que les Cananéens et les Égyptiens, et peut-être les autres peuples, achetaient auprès de Joseph, cet argent, tout est déposé dans le palais du Pharaon, pas dans le palais de Joseph. Je vois un très bon exemple à suivre de Joseph qui remet tout à Pharaon. Voilà ce que le Seigneur m'a montré pour nous. Merci.
Vraiment un exemple à suivre. Merci, Papa José. Un exemple à suivre, le modèle des dirigeants honnêtes. Il ne prend pas ça pour son compte. Il pouvait devenir extrêmement riche, cet homme, plus même que Pharaon, s'il prenait une partie pour son compte, une autre partie pour Pharaon. Mais lui, il savait bien qu'il était au service du roi et il avait malhonnêteté à exercer. Tout était versé dans la maison du roi. quel exemple, quelle honnêteté, quel vraiment un exemple à suivre. Et même là, je suis en train de voir dans le verset 13 la famine qui s'apesantait terriblement sur le pays d'Égypte, le pays de Canaan. Nous voyons la fidélité de Dieu. C'était prédit, c'était annoncé qu'il y aura l'abondance, un temps d'abondance. Les intelligents ont fait des provisions. Joseph a été nommé à la tête de l'Égypte à cause de ce que Dieu avait dit, à cause de sa sagesse, parce que Pharaon ne pouvait pas voir qui d'autre plus intelligent que toi pour gérer ce qui va arriver. Et effectivement, la fidélité de Dieu est en train de se confirmer. Le roi a écouté ce que Dieu voulait. Il a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et aussi sa fidélité, c'est que la parole est en train de s'accomplir. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Merci beaucoup, maman Claudine, tu as la parole.
Merci, papa. Je prends le verset 14 et le verset 15 qui se complètent. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison du Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, et tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Oui, voici. Ça me fait rappeler à un moment où il y avait eu la démonétisation au Congo, que vraiment les gens, il y a ces mêmes qui se sont tués, parce qu'ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient comme argent, ou qu'ils se retrouvaient avec des papiers qui ne valaient plus rien. Mais ici, nous voyons que ce n'était pas une démonétisation, mais c'est parce qu'il y avait une famine très prononcée. Et les gens ont tellement acheté avec leur argent qu'il ne leur restait plus rien. Bien-aimés, quand il n'y a plus de l'argent, c'est la catastrophe. Mais nous voyons que malgré cela, le peuple ne se sont pas fatigués. Ils allaient que vers Joseph, parce qu'ils ont, ils savent que c'est celui-là que les pharaons avaient établi pour pourvoir aux besoins. Et Joseph ne fermait pas les portes pour dire que non, je suis fatigué de ce peuple, je suis dérangé, je n'en peux plus. Non, tellement il avait la sagesse de Dieu, qu'il avait tout, à tout moment une autre initiative à prendre pour que le, et le peuple et le pharaon, personne ne soit privé de quoi que ce soit. Le peuple y mangeait et le pharaon et Joseph amassaient pour le pharaon. Est-ce que nous aussi, devant une situation de crise, pouvons-nous laisser la sagesse de Dieu, Dieu nous conduire dans sa sagesse, pour que, qu'il y ait tout le temps une solution? Donc nous voyons que ce n'était, il y avait l'argent, l'argent est fini, maintenant c'était les terres, et après les troupeaux, et ainsi de suite. Chaque fois, il y avait une solution. On peut dire que c'était des solutions peut-être radicales, mais est-il que au moins le peuple ne mourrait pas de faim? Et il le faisait année après année. Quelle stratégie! Bien-aimé, c'était vraiment un exemple à suivre. Être transparent envers le peuple et envers le pharaon. Et on ne nous dit pas qu'il a pris quelque chose pour lui. Tout c'était pour le pharaon. Mais le peuple aussi en bénéficiait parce qu'il ne crevait pas de faim. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Savoir utiliser la sagesse que le Seigneur nous donne pour trouver la solution à toute crise que nous pouvons rencontrer dans l'exercice de nos des fonctions, des ministères que le Seigneur nous a donné. Amen.
Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment de la sagesse. Savoir gérer la crise avec sagesse, comme Joseph l'a fait. Il a géré le peuple. Il a géré son patron, Et chacun trouvait son compte. Il ne s'est pas fatigué. Et le peuple n'est pas aussi venu nombreux pour dire « Allons-y casser les provisions. » Parce que dans d'autres cieux, quand la situation devient difficile, on passe au pillage. On dit « Il a fait des provisions, allons-y tous ensemble, casser ces provisions. » Nous voyons la main de Dieu était là pour protéger Joseph. Malgré les mesures draconiennes pour gérer la crise, le peuple avait toujours confiance. C'est pourquoi on nous dit, le peuple revenait toujours, donnez-nous à manger. Revenez toujours, donnez-nous à manger. Donc la confiance, quelle que soit la mesure dure, le peuple avait toujours confiance en Joseph. Et ça c'est l'action de Dieu. Et quand Pasteur Claudine parlait, j'étais en train de voir les non-dits dans notre texte. C'est cet homme de Dieu qui ne devait pas gérer seul. Il devait nécessairement gérer avec le Seigneur. Il devait continuellement se confier au Seigneur. Parce que la crise était tellement importante que ça, ce n'était plus la sagesse humaine qui devait compter. Il n'y a que la sagesse divine qui pouvait aider cet homme à s'en sortir. Et nous voyons vraiment les résultats que Dieu était derrière son fils. Merci beaucoup, maman Claudine. Je donne la parole au frère Jean-Baptiste.
Oui, merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Moi, je trouve un exemple à suivre, celui du peuple qui vient crier auprès de Joseph pour dire « Donne-nous à manger ». L'argent est épuisé et comme on le verra dans la suite, le peuple reviendra toujours. Le peuple s'adresse à Joseph parce que Joseph est le représentant du roi. Et Joseph est celui qui a l'effectivité des pouvoirs qui peut résoudre leurs problèmes. Alors moi, je me dis, c'est un bel exemple à suivre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons un représentant. Dieu le Père nous a laissé un représentant à son fils, comme Pharaon avait établi Joseph. Et devant les obstacles, devant les épreuves de la vie, ça peut ou ne pas être forcément la famine, nous avons l'obligation de crier. Nous devons faire notre part. Parce que si les peuples ici n'avaient pas crié à Joseph, Joseph se dirait peut-être, ils ont la provision. Mais ils ont crié. Alors Joseph a compris qu'ils n'ont plus rien. Nous également, nous devons apprendre à crier à notre Seigneur Jésus, lui qui est notre avocat auprès du Père. Devant toutes les situations qui nous accablent, faisons notre part. Notre part, c'est de crier auprès de lui. Et lui qui a la solution, va nous solutionner au moment opportun. Amen.
Amen. Merci beaucoup, c'est vraiment un bel exemple du peuple qui crie vers le représentant du roi. Rappelons-nous que c'est le roi qui a dit au peuple, ne venez plus chez moi, allez chez Joseph et faites ce qu'il vous dira. Et cette direction du peuple vers Joseph, nous voyons que ça porte du fruit. Joseph est tellement sage qu'il sait bien gérer le peuple. Et nous sommes en train aussi de voir un exemple à suivre. C'est que, en tant que dirigeant, il est totalement au service du peuple. Parce que s'il gère mal, il ne gère pas le peuple, il va y avoir des catastrophes dans la population. Il gère le peuple, il connaît le peuple. Et le peuple a confiance en lui. Ce qu'il dit au peuple de faire, le peuple le fait. Quel bel exemple, quelle complicité entre le dirigeant et la population. Quand le peuple n'a plus de confiance en ses dirigeants, c'est fini, c'est la catastrophe. C'est ce que nous sommes en train de voir dans beaucoup de pays du monde où le peuple n'ont plus de confiance dans leurs dirigeants. Alors, en ce moment-là, ils sont en train de dire qu'ils sont dirigeants, mais ils sont des dirigeants pour eux-mêmes. Ce n'est plus pour ce peuple. Merci beaucoup. Nous continuons un peu plus loin. Je ne vois pas de demande de main ou demande de la parole.
Oui, je...
Oui, allez-y, Papa José.
Oui, oui. Disons que le verset 16 suit ce qui était plus haut. Au verset 16, « Si vous n'avez pas d'argent, donnez-moi vos troupeaux. » Répondit Joseph, « Et moi, en échange, je vous donnerai à manger. » Pas d'argent, je peux prendre le troupeau. Et un peu plus bas, il n'y aura plus de troupeau. Il n'y aura plus de troupeau. Au verset 18, au bout d'une année, il revint et dit à Joseph, « Monsieur l'administrateur, nous ne pouvons pas cacher que nous n'avons plus d'argent et que nos troupeaux t'appartiennent déjà. Nous n'avons plus rien d'autre à te proposer que nos personnes et nos terres. » Vraiment, ici, j'ai pitié de ces gens. En même temps, je les apprécie parce que Ils ont confiance en Joseph. Ils n'ont pas caché ce qu'ils ont comme difficulté. Nous n'avons plus d'argent. Bon, les troupeaux sont déjà chez vous. Et nous n'avons plus rien d'autre à te proposer que nos personnes et nos terres. Donc, ils disent la vérité, la réalité, que ce qui reste maintenant, ce sont nos terres et nous-mêmes. Ce sont nos terres et nous-mêmes. C'est une équation très difficile que Joseph va résoudre. Une équation très difficile. Les gens qui viennent, nous n'avons rien, pas d'argent, pas de... des choses en échange. Il n'y a que nous-mêmes. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, Dieu, en mettant Joseph là-bas, il a revêtu Joseph d'une grande sagesse. Amen. Pour résoudre les problèmes. Nous verrons, il trouvera une solution. Alors, c'est pour dire que tout ce qui est impossible à nous les hommes, cela est possible à Dieu, et faisons confiance en notre Dieu. Merci.
Merci beaucoup. Faisons vraiment confiance à notre Dieu. Et nous voyons cet homme que Dieu a inspiré d'être à la tête de l'Égypte, placé par le roi Pharaon, la sagesse qui est en train de sortir, vraiment, ça, c'est pas la sagesse humaine. Parce que quand on est arrivé au point où tout est épuisé, l'argent est épuisé, les bétails, tout est épuisé, maintenant les gens se présentent, nous n'avons plus rien. Ils lui regardent en face, nous n'avons rien. Nous, ici, tels que nous sommes là que nommés d'ici et notaire trouve une solution. Et l'homme va trouver une solution d'acheter même les terres et eux-mêmes vont même faire la proposition au verset 20. On nous dit que Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le pharaon. Non, au verset 19, eux-mêmes ont fait la proposition. Nous serons nous-mêmes esclaves du pharaon avec nos terres et donne-nous de quoi s'aimer pour survivre. va acheter toutes les terres et le pays va devenir la propriété de Pharaon, pas de Joseph, de Pharaon. Quel bel exemple, quelle sagesse divine. Et nous en avons besoin vraiment aujourd'hui. Merci beaucoup. Papa Samuel, tu as la parole.
Mm-hmm. Merci, vous avez déjà abordé ce que je voulais, mais je saute alors au verset 22.
Ok.
Je vois ici que Joseph a acheté toute la terre, donc les terres des Égyptiens pour Pharaon. Et même eux-mêmes, ils se sont fait esclaves de Pharaon. Mais ce qui me frappe, c'est de voir que Joseph n'a pas acheté de terre de prêtre. Les terres de prêtre d'Égypte sont restées pour eux-mêmes. Leur attribuer cette terre-là. Et on voit, on comprend ici que la nourriture aussi peut-être venait, le prêtre était nourri. Parce qu'on n'achète pas leur terre, donc on les laisse. Alors on voit que le prêtre n'était pas soumis au même traitement que toute la population. Ce que je voudrais montrer, c'est cet aspect un peu quand même de privilégier ceux qui étaient au service de leur Dieu, les dieux entre guillemets. Alors, on voit quand même qu'ils sont privilégiés dans ce pays, dans ce royaume.
Ouais.
Alors, je me dis, est-ce que s'il y a de tels événements qui arrivent aujourd'hui, est-ce que nos États peuvent avoir de la clémence vis-à-vis de ceux qui sont au service de Dieu? On peut dire ici que Pharaon était quand même religieux.
Ouais.
Et il respectait les prêtres.
Ouais.
Ce que je voulais montrer, c'est l'aspect de la crainte ou du respect du prêtre, de celui qui est au service de Dieu. Ici, ce n'est pas le Dieu d'Israël, mais... Et ici encore, on voit encore que Joseph respecte la loi qui était établie.
Ouais.
Mais pourtant, il sait que ce ne sont pas des dieux.
Oui.
Mais il respecte la loi qui était établie dans ce pays-là. Comme un premier ministre dans un pays étranger, lui-même qui comptait sur Dieu, qui aimait Dieu, mais il n'a pas demandé qu'on puisse détruire ça. C'est quand même une question que nous pouvons, qui reste à résoudre pour nous. Et on voit qu'il avait des craintes, le respect de Pharaon, et il a respecté les lois de ce pays. Donc, comme pour dire que si on est nommé dans un autre pays, la constitution doit être respectée. Mais ailleurs, on parle de ceux qui sont venus d'autres pays qui ont eu des pouvoirs, mais qui font tout ce qui ne passe pas à la tête.
Ouais.
Merci beaucoup. Je n'ai rien dit, comme disent les Belges.
Oui. Merci beaucoup. Vraiment, nous voyons la sagesse qui continue dans la gestion de Joseph. Ça, c'est vraiment de la sagesse. Il sait bien que ces prêtres ne servent pas les dieux véritables. Mais parce que la loi a été signée par son chef, il ne va pas à l'encontre de cette loi. Il la respecte. Il n'achète pas les terres des prêtres. S'ils n'achetaient pas leurs terres parce qu'eux aussi n'avaient plus d'argent, on suppose qu'eux au moins avaient un traitement spécial pour recevoir de la nourriture. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Quand nous voyons dans d'autres cieux la loi qui est établie, il y en a qui vont même au-dessus de la loi. Il y en a même qui prêtent serment pour le respect de la loi, la loi suprême qui est la constitution de toute la nation, Mais vous voyez, même les personnes qui ont prêté serment pour la respecter, ce sont ces personnes qui violent cela. Et c'est très, très instructif pour nous de savoir, surtout nous qui sommes dans les terres étrangères, que nos terres d'origine, apprenons à respecter la loi du pays d'accueil. Merci. Maman Christine d'Angleterre, tu as la parole.
Merci, papa, pour la parole. Je suis arrivée un peu en retard, bien-aimé. Je suis là au verset 23 et 24. Je me base sur ce que les bien-aimés ont dit, que Joseph, c'était vraiment un leader, c'était vraiment un bon exemple de leader, parce que je vois ici, les gens lui ont fait la proposition, il a accepté, il a acheté leur terre, et je peux intituler le verset 23-24 que c'est la signature du contrat, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un contrat, il faut qu'il porte à la connaissance de tout le monde que comme vous aviez proposé que j'achète vos terres, je les ai achetées. Ce qui m'a plu ici, Joseph n'a pas dit qu'il a acheté pour lui, il a dit pour Pharaon. Et c'est pour cela que je dis que vraiment Joseph, c'est un exemple à suivre, c'est un homme humble, il n'est pas orgueilleux comme nous l'avons vu, le serviteur de Joseph, l'intendant de sa maison qui était parti poursuivre les frais de Joseph pour récupérer la coupe. Il avait dit que la personne sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave. Mais ici, Joseph n'a pas dit que vous serez mes esclaves, les terres sont à moi. Non, il a dit que c'est pour Pharaon. Et je vois ici vraiment que les deux côtés, les deux parties respectent le contrat. Et le peuple qui a vendu leurs terres et Joseph qui a acheté les terres pour Pharaon, ils ont signé ensemble ce contrat. Ce soi-disant contrat, bien sûr, parce qu'on n'a pas mis ça sur le papier. Et tout le monde était d'accord. Et voilà que c'est à ce moment-là que Joseph leur donnera les semences pour qu'ils puissent cultiver les terres qui étaient en fait à Pharaon déjà, pour cultiver et respecter les clauses du contrat. Voilà ce que j'ai pu prélever ici, bien aimé. Merci.
Merci beaucoup. C'est vraiment de la complicité entre le peuple et Joseph. Une gestion très rigoureuse, mais le peuple comprend et le peuple accepte. C'est ce qui fait qu'au verset 25, malgré la taxe qui est imposée, pour voir que les taxes sont importantes partout dans le monde,
amen,
ils vont reconnaître que tu nous as rendu la vie. Même s'ils vont travailler en payant la taxe, mais ils acceptent, ils voient la crise, ils disent, non, ça c'est un dirigeant qui travaille pour notre bien. Quel bel exemple. Merci beaucoup. Ici, maman Claudine, tu as la parole.
Merci papa, j'allais partager, mais le moment qui filme, il a lu mes pensées, et il a vu ma devancée, alors je vais partager les versets.
Oui, c'est le Saint-Esprit.
Je vais partager le verset 27 où la Bible déclare, Israël habita dans le pays d'Égypte.
On l'a dit à 27.
Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent de possession, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Ici, vraiment, j'étais en train de glorifier le Seigneur parce que la parole de Dieu, elle est centrale, elle est efficace. Et nous voyons que Dieu avait fait cette promesse à Abraham quand nous lisons dans le livre de Genèse 35, au verset 11. Nous voyons comment quand l'Éternel avait parlé, et quand il avait changé le nom de Jacob en Israël, nous voyons ce que le Seigneur lui avait dit. La Bible nous dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Nous voyons vraiment que cette parole de Dieu est en train de s'accomplir dans la vie de Jacob. Jacob, dans une terre étrangère, avant de mourir, il a vu ce que le Seigneur lui a dit. Parce que celui qui lui avait fait la promesse, il est fidèle. Et nous sommes en train de vivre la fidélité de Dieu. Jacob a vu sa postérité se multiplier et être fécond.
bien-aimé, ceci me donne vraiment à faire encore confiance à notre Dieu. Si Dieu nous a donné une promesse, cette promesse, nous ne pouvons pas ne pas vivre cette promesse, parce qu'il est fidèle, il veille sur sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Quoique Jacob ne retournera peut-être plus vivant dans le pays de Canaan, mais il a goûté à la bénédiction de Dieu. Il a vu de Dieu que cela est en train de s'accomplir. Et je suis vraiment dans la joie de savoir que pour nous aussi, les promesses que Dieu nous a faites s'accompliront, pourvu que nous puissions demeurer, avoir une foi persévérante. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment la fidélité de Dieu qui est en train de s'accomplir dans la vie. Les promesses ont été faites à Abraham, mais c'est sa descendance qui est en train... La promesse avait déjà d'abord été faite en Genèse 15, que tes descendants iront dans un pays étranger et ils séjourneront là 400 ans. Et nous avons vu l'entrée de cette nation qui va faire 400 ans, même plus, dans le pays d'Égypte, et même la multiplication qui avait été prédite, même si Abraham était bien sûr riche, n'a pas vu comment ses descendants se sont multipliés, mais la fidélité de Dieu continue même avec nos progénitures. Gloire au Seigneur. Merci vraiment, Claudine. Papa José des États-Unis, tu as la parole.
Oui, moi je fais un pas en arrière au verset 26. Joseph a promulgué une loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. C'est quand on parle d'aujourd'hui, souvent c'est quand on rédigeait le livre. Cette loi était là. Peut-être aussi aujourd'hui, mais sinon, cette loi a existé en son temps. C'est pour dire que Joseph a laissé des traces en Égypte.
Amen.
Il a laissé des traces. Et dans les annales de ce pays, tout ce que Joseph a fait pendant cette période de famine, tout est inscrit. Ils savaient qu'il y avait un Hébreu répondant au nom de, il a reçu le nom de, et il a fait ceci, il a fait cela. Donc c'est pour dire que notre Dieu, il peut nous utiliser valablement ailleurs que chez nous.
Amen.
Il peut. Parce que pour lui, toute la terre lui appartient. Mais pour nous, j'ai mon pays. Je connais d'où je viens. Mais pour Dieu, non. Partout, c'est moi. Et là, il t'utilise. Et toi, tu fonctionnes normalement en se basant sur sa parole et tu reçois une bénédiction au point de promulguer une loi qui reste, qu'on suit. Cette loi, c'est quoi? En Égypte, un cinquième des récoltes revient à Pharaon. Voilà. À part le prêtre, mais tous les autres citoyens, un cinquième va chez le roi, selon la loi promulguée par Joseph, un Hébreu. Dieu peut faire de nous aussi. Merci.
Merci beaucoup. C'est un exemple à suivre. Apprenons à laisser de l'impact partout où Dieu nous a placés. Toutes les terres, partout, d'où nous venons, là où nous sommes, tout appartient à Dieu. Et même les hommes qui nous gèrent appartiennent à Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes en train de cheminer vers la fin en regardant et touchant ce que Jacob est en train de faire pour la fin de sa vie. Donc, papa et pasteur Samuel, je te donne encore la parole, s'il te plaît.
Ok, merci beaucoup. Comme on le verset qu'il vient de partager, il a dit une partie de ce que je voulais aussi dire, mais j'ajoute pour dire que Joseph est devenu, donc Joseph est devenu pour les économistes modernes un exemple aussi, parce que aujourd'hui la fiscalité, ce que nous faisons au cours de l'année, nous avons des impôts que nous rentrons à l'État, ça fait partie de ces 1/5 qu'on doit à l'État. Donc, ou même si c'est déjà plus d'un cinquième dans d'autres pays, mais c'est, on voit bien que la Bible a influencé la politique, les droits, l'économie, et beaucoup de gens ont puisé dans la parole de Dieu. Et j'enchaîne avec le verset 29 pour voir la demande de Jacob à son fils. Il dit à son fils, il demande à son fils pour qu'il enterre dans la terre promise. Au moment de mourir, il appelle son fils Joseph et lui dit, si tu as de l'affection pour moi, donne-moi une preuve de ton amour et de ta fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte, fais-moi sous ma cuisse. Quand j'aurai rejoint mes ancêtres, tu emporteras mon corps hors d'Égypte et tu les mettras dans leur tombe. Joseph répond, je ferai ce que tu me demandes. Jacob lui dit, jure-le. Joseph le jure. Alors Jacob se met à genoux près de la tête de son lit. Donc, ce que je voulais montrer ici, c'est de voir combien cet homme qui était âgé de 147 ans, mais a gardé encore la promesse que Dieu lui avait faite de la terre promise, de la terre du Canaan, et il demande à sa mort qu'il retourne dans la terre que Dieu lui avait promise. Donc c'est un aspect important quand même de voir qu'il meurt dans l'espérance que, en faisant ceci, il meurt dans l'espérance que ses descendants retourneront dans la terre du Canaan. C'est comme aussi un signe pour montrer que vous n'êtes pas d'ici. Chez vous, c'est dans la terre de Canaan. C'est là que vous devez vivre. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre qu'il demande qu'il soit enterré dans la terre de Canaan. Alors, et puis, mais on voit comme on voit aussi le serment ici que l'autre fait. Et je sais qu'il va honorer ce serment. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas que quand je meurs, qu'on me transporte seulement jusqu'à Léopoldville, mais est-ce que nous pouvons aussi enseigner à nos enfants d'où ils viennent, qui ils sont, la parole de Dieu, qui ils sont, parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils sont, même dans la société où nous vivons aujourd'hui, ils n'auront pas leur place, ils ne pourront pas avoir leur place. Parce que il me semble quand même que chaque personne a besoin d'une identité. Est-ce que nous apprenons aussi à nos enfants de savoir qu'ils sont de, ils peuvent, ils ont aussi, leurs parents viennent de tel pays, pour qu'ils ne se perdent pas complètement, qu'ils soient comme des gens sans histoire. Vous voyez que même dans l'histoire aujourd'hui, nos frères qui ont été déportés dans d'autres pays, ils cherchent maintenant, ils cherchent à reconnaître d'où ils viennent, d'où ils sont venus. C'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'un homme. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là parce que nous devons terminer à temps. J'ai vu papa Jean-Baptiste avait une main levée. Est-ce que l'idée a été déjà dite ou c'est une autre idée que tu as à dire dans une minute?
Non, merci, pasteur. C'est maman Esther qui allait parler. Et heureusement, le papa pasteur Samuel l'a tout dit.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Rappelons-nous, frères et sœurs, quand Jacob quittait le pays de Canaan pour aller en Égypte sur invitation de son fils Joseph, Dieu lui avait parlé. C'est Genèse 46, le verset 4. Il lui avait dit, c'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai aussi sortir, remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main.
Alléluia.
Donc, la promesse a été faite que le Seigneur l'accompagne en Égypte, et c'est le Seigneur qui le fera sortir aussi en Égypte. Il pouvait peut-être penser, mais comment ça va se faire? Est-ce que c'est de mon vivant? Est-ce que je vais mourir en Égypte? Mais Dieu sait, même si c'est sa descendance qui va rester après lui, c'est toujours une partie de sa vie.
Amen.
Toujours une partie de sa vie. Et même là, nous sommes en train de voir à travers l'histoire de Jacob, qu'il est arrivé en Égypte, il sait qu'il n'est pas éternel en Égypte, il sait qu'il est passager en Égypte, qu'il va un jour partir. Mais nous, quand nous sommes sur cette terre, des fois nous pensons que nous sommes éternels et nous commençons à vivre sans Dieu, commençons à vivre sans tenir le même compte que nous n'avons que peu de jours sur cette terre. C'est vraiment instructif, c'est que... Jacob est en train de nous enseigner comme un exemple et comme leçon pour notre vie d'aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là, frères et sœurs. Nous n'avons plus de temps pour lire les commentaires, mais les commentaires que nous avons partagés les uns les autres ont été extrêmement riches. Sachant que le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. Dans sa fidélité, il peut nous donner cette sagesse partout où il nous a placés à gérer les hommes, dans toute humilité, dans toute transparence. Joseph a été pour nous un exemple dans la gestion. Les lois du pays sont respectées, les autorités sont respectées, les parents sont respectés, chacun il l'a placé à sa place, jusqu'à même jurer à son père que je ferai ce que tu me demandes. Quelle belle leçon, quel bel exemple. Merci beaucoup, frères et sœurs. Les textes de demain, nous allons continuer avec le chapitre 48. Nous prendrons le chapitre 48 et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 22. Donc, demain, ce sera tout le chapitre 48 que nous allons méditer. Nous pouvons rapidement prier. Dieu notre Père, merci. Tu nous as parlé. Nous voudrons être obéissants à ta parole. Nous ne venons pas pour jouer quand nous sommes autour de ta parole. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous aide à vivre comme tu as conduit le peuple d'antan, que tu nous conduises de la même manière. La sagesse, nous en avons besoin. L'amour du peuple, nous en avons besoin. Et nous prions en même temps pour tous nos dirigeants de nos pays d'origine, de nos pays d'accueil, pour que le peuple soit au centre, Seigneur de gloire. Travaille encore aujourd'hui, règne encore aujourd'hui dans les nations, pour que le peuple soit au centre, que le peuple ne soit pas considéré, déconsidéré sur tous les plans. Ce qui importe, c'est l'enrichissement. Ce qui importe, c'est écraser, effacer ceux qui sont contre nous. Règne encore aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous vraiment cette sagesse. Mets-nous à cœur de prier pour nous-mêmes et pour ceux qui dirigent le peuple aujourd'hui dans les différentes nations. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.
Amen.
Merci beaucoup, peuple de Dieu.
Okay.
Que le Seigneur nous conduise, nous garde, nous fortifie. Que sa grâce abonde dans nos maisons. Amen.
Amen.
Maman Charlotte.